Radio Foot International, Hugo Moissonnier.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de débuter la semaine en votre compagnie dans Radio Foot, un génie du jeu, le jeu magnifique s'en est allé. César Luis Menotti, entraîneur argentin, sélectionneur de la première albicéleste, sacrée championne du monde en 1978, nous a quittés à l'âge de 85 ans. L'apôtre du beau jeu collectif en aura fait rêver plus d'un, à commencer par l'un de nos invités du jour, dont je garde l'identité secrète pour le moment. Ce sera une belle surprise pour nous tous et une belle manière de rendre hommage à César Luis Menotti. En tant qu'esthète et ancien coach du Barça, El Flaco, on le surnommait ainsi, aurait probablement détesté le Real Madrid version 2023-2024, un Real qui ne régale pas forcément, mais qui semble bien parti pour tout emporter. Sur son passage, le titre de champion d'Espagne est de retour au sein de la Maison Blanche, en attendant une éventuelle coupe aux grandes oreilles, Ligue des Champions, aux dépens du Manchester City de Pep Guardiola, hein, éliminé en quart de finale. Menotti préférait probablement les triomphes du Catalan, qui était l'un de ses disciples autoproclamés. Guardiola et Manchester City toujours à la lutte avec Arsenal dans le sprint final en Première Ligue. Que des Menottistes dans ma team aujourd'hui, des apôtres du beau jeu, je sais pas, du beau commentaire, du bon mot en tout cas. Patrick Juillard, bonjour.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous.
Bonjour Salim Bongali.
Bonjour Hugo, bonjour à toutes et à tous. Oui, Menottiste, parce que quand on est fan de West Ham, on est forcément Menottiste.
Pellegrini, non, il était chilien lui, mais il était peut-être un peu Menottiste.
Oui, David Moyes, non,
David Moyes, ça marche.
Mieux vaut être Menottiste que Menotté, hein, ceci dit.
Joli.
Le bon mot. Le
joli.
Bon.
Elle a été faite 28-29 fois, je pense, aujourd'hui, ces dernières heures dans le bureau de Radio Foot. Bonjour Hervé Penaud.
Bonjour à tout le monde, mais quel plaisir d'être en votre compagnie. On va encore parler du génie qui était Menotti, c'est magnifique.
Je pensais que vous alliez dire Bruce Springsteen, que vous arborez fièrement sur votre t-shirt.
Car oui, il vient en concert à Marseille, il faut le savoir.
Le Vélodrome fait déjà beaucoup de bruit sans Springsteen. Avec Springsteen, ça va être quelque chose.
Ouais. On va danser dans
le
noir.
Ses succès remontent un petit peu, hein, comme ceux de l'OM. Mathieu De Gueldre à la réalisation de Radio Foot et Pierre-Olivier Guérin à la préparation. C'est parti.
Le champion, c'est peut-être pour aujourd'hui, pour le Real Madrid. Attention, Brahim. Brahim, il souffle tous les angles. La frappe ! Quel but extraordinaire de ce joueur ! Goal ! Succès donc du Real Madrid, et si Barcelone ne gagne pas dans quelques minutes, eh bien le Real sera champion d'Espagne.
C'est terminé, le petit catalan a dominé le géant catalan cet après-midi.
Que tarde histórica, de que sí, de que el Madrid va ser campeón.
Nouvelle couronne pour le roi madrilène, la couronne d'Espagne pour l'instant, en attendant celle très convoitée de l'Europe, emmenée par sa pépite marocaine, Brahim Diaz. Le Real a signé une belle victoire contre Cadix, 3-0. Dans le même temps, le derby des poursuivants, qui est aussi un derby catalan, a tourné à l'avantage du petit poussé Gérone, 4-2 face au Barça. Ça fait 36 titres de champion d'Espagne pour le Real Madrid, qui est très loin là aussi devant la concurrence, et 9 de plus que le Barça. Sachez-le, ce n'est pas une surprise de voir les merengues sacrés en Liga à 4 journées de la fin, d'autant qu'ils ont dominé les débats à peu près toute la saison en Espagne. Mais le Real Madrid, dont on a critiqué dernièrement le jeu minimaliste, notamment, je le disais, en Ligue des Champions, contre Manchester City, voire contre le Bayern, fait-il pour autant un beau champion d'Espagne, mon cher Hervé Penaud ?
Il fait un très beau champion d'Espagne, même si évidemment, ce n'est pas le Real Madrid d'une certaine époque, mais qui aurait imaginé ce Real rebondir de cette manière-là ? Alors dans un championnat, il faut quand même noter qu'il est un peu moins fort que les années précédentes, hein, parce qu'il y a pas mal de stars qui sont évidemment partis. Mais ce Real-là, on ne s'imaginait pas, avec la perte de Karim Benzema, avec les nombreuses blessures qu'ils ont pu avoir, et ben de voir cette équipe se reconstruire aussi vite avec beaucoup de jeunes, et puis avec l'apport. Alors, on parlera de Carlo Ancelotti, j'imagine, un petit peu
bien
après.
Sûr.
Déjà, parlons un petit peu des joueurs. Et l'apport de Bellingham, qui a été énormissime dans ce titre, plus les stars naissantes, qui sont Vinicius, Rodrigo un petit peu moins, mais Vinicius qui est un peu le nouvel attaquant en vogue de ce Real Madrid. Donc c'est vrai qu'on n'était pas certain qu'il puisse être capable de réussir de telles prouesses, parce qu'on avait la sensation d'une équipe qui commençait à être un petit peu moins forte, d'où la volonté absolue de Pérez de pouvoir attirer Kylian Mbappé.
Mais Bellingham, c'est pas mal non plus. Deuxième buteur ce week-end pour le match du titre. Rossellou pour le dernier but des Madrilènes.
Outre le départ de Karim Benzema, il y avait aussi des interrogations au milieu de terrain. Est-ce que, à un moment donné, Toni Kroos, Luka Modric, ils pourraient continuer de tenir à ce niveau-là, à cet âge-là, sous-entendu, avec en plus, Hervé l'a dit, ses blessures derrière. Ensuite, il y a eu la grosse blessure dans la cage aussi. Et sans Thibaut Courtois, c'est plus la même. Est-ce que Kepa va tenir? Bon, on a vu très rapidement que non. Lounin, lorsqu'il est arrivé, je vous rappelle, on s'est même dit « Ah, ben le Real va devoir recruter quelqu'un très rapidement en mercato pour compenser la blessure de Courtois. » Au final, Lounin a tenu. Finalement, défensivement, Ancelotti a eu des trouvailles assez dingues. Tchouaméni, qu'il a réussi à placer parfois en défense centrale. Kamavinga, qu'il est meilleur à gauche, ça a tenu. C'était, sur certaines rencontres, on avait sur 4 défenseurs, 3 qui n'étaient pas des défenseurs de métier. Ça arrivait très souvent. Et au final, ça a tenu, ne serait-ce que lors du Classico face à Barcelone, où on avait du Tchouaméni, du Kamavinga, du Lucas Vázquez, qui, on le rappelle, à la base, est un attaquant. Donc, il a réussi des choses dingues, Ancelotti. Les joueurs ont réussi des choses phénoménales. Donc, ce Real-là, oui, c'est peut-être pas en termes de jeu, ce qu'on entend par jeu à l'époque du Barça.
Surtout
ou...
Real.
Voilà, surtout Real.
C'est vrai qu'il y a une ADN un petit peu du beau jeu.
Oui, parce qu'en Espagne, de manière générale. Vous parlez, du tableau d'ensemble, peut-être de ce qu'il y a sur le papier, les compositions un peu bricolées, mais qui fonctionnent, le fait qu'il y ait eu du rendement de joueurs, pas forcément leur poste. Mais est-ce qu'on a pris son pied en regardant le Real Madrid?
Pardon, juste Patrick, pardon, mais avant de vous passer la main, je vois que vous voulez parler, mais juste, il y a l'état d'esprit de ces joueurs. Moi, quand je vois cet état d'esprit-là, perso, ça va même au-delà du jeu. Quand je vois ces joueurs qui sont capables, en Ligue des Champions, peut-être que ça marchera encore, capables de se dépasser et d'avoir un travail défensif comme ils l'ont fait face à City, et de changer de mindset en 3 jours parce qu'ils ont en championnat soit Cadiz ou le Barça et devoir attaquer à tout va, pardon, mais cette manière de jeu-là, pour moi, c'est une manière brillante de jouer, oui.
Mindset.
Ouais, état d'esprit.
Ouais, quel
horreur. Il aime bien montrer qu'il est bilingue. Oui, de temps en temps, il aime bien nous le dire. Même quand on est en privé, c'est terrible.
La nouvelle langue, l'Angleterre, ça c'est...
Pardon.
Je ne dirais pas prime, je ne dirais pas momentum, mais je ne dirais pas mindset. Voilà.
Alors, l'état d'esprit de ce Royal de Madrid a-t-il été...
Non, mais c'est marrant parce que quand j'entends Salim, qui partage avec moi le fait de supporter un club historiquement plutôt de milieu ou bas de tableau, oui. Pas de haut de tableau. Lui, West Ham, moi, l'OGC Nice. En fait, on retrouve dans ce Real des vertus que les supporters des clubs de bas ou milieu de tableau aiment retrouver dans leurs équipes.
C'est vrai que ça faisait très description de
lâcher.
Brest, ce que vous racontiez.
Oui.
Ils n'ont rien, ils n'ont aucun moyen, mais ils donnent tout.
S'adapter à des circonstances hostiles, ne rien lâcher, être toujours combatif et solidaire. Tout ça, ce Real-là, mais après, avec un budget comme celui du Real Madrid, avec un effectif comme celui-là, parfois, ce Real est très minimaliste et nous laisse sur notre faim. C'est l'équipe qui a dépensé le plus. Alors, c'est principalement sur un seul joueur qui a été miraculeux sur la saison de Jude Bellingham, qui a été la pioche miracle du Real cette saison. Parce que 18 buts, ce sont sans doute les meilleurs stats pour un milieu de terrain dans les 5 grands championnats. Et c'est... a fortiori pour un joueur qui arrive au club, dont c'est la première saison. Donc ça, c'est autre chose. Et puis, si on regarde un peu les chiffres en détail, c'est une équipe qui fait preuve d'une abnégation et d'une haine de la défaite incroyable.
Une seule, c'est ça, cette saison en championnat, me semble-t-il.
Et une seule en Coupe du Roi, voilà, face à l'Atlético de Madrid.
18 matchs sans encaisser de but, et seulement 22 buts encaissés en Liga. Sur ces 2 dernières stats, il n'y a qu'une seule équipe qui fait mieux dans le top 5 européen, devinez laquelle c'est.
Le Bayer Leverkusen ?
Non, l'Inter Milan.
Ah oui.
Et en fait, je pense que l'Inter Milan qui a chuté, qui a raté la marche contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions, pour moi, c'était la finale parfaite en Ligue des Champions. Ce sont les deux équipes les plus imbattables, entre guillemets, d'Europe cette saison.
Vous vouliez corriger quelque chose?
Oui, je voulais dire, c'est vrai que ce championnat d'Espagne a été un championnat, alors je ne vais pas dire au rabais, hein, loin de là, parce que ça reste quand même des belles équipes, mais on l'a vu
un
avec Barcelone.
Quoi.
Oui, on l'a vu avec Barcelone contre le Paris Saint-Germain.
Mais ça fait plusieurs années que Gérone, qu'on le dit, donc le, on
oui, mais
va
là,
pas le dire à chaque saison, oui, mais là, c'est ça, plus le Barça de Ronaldo Messi, enfin,
non,
c'est plus
mais
le,
là,
les Barça
ça baisse
de Ronaldo
petit
Messi.
À petit, parce que ce Barça-là est derrière Gérone, il a perdu là, c'est pas rien pour le Barça d'être derrière son voisin. Ça veut quand même dire beaucoup de choses sur le niveau global de cette équipe barcelonaise qui logiquement doit être supérieure à ça. Et du côté du Real Madrid, bah, dans un championnat un peu moins bon, et bah, ça suffit d'une certaine manière. Ce qu'ils ont été capables de proposer avec la qualité quand même de l'effectif, attendez, on ne parle pas non plus d'un sous-effectif, mais c'est vrai que sur le papier, et ce qu'ils ont réussi à prolonger en Ligue des Champions, c'est là où c'est à mon avis encore plus fort, c'est d'avoir été capable de reproduire à peu près ce qu'ils faisaient en championnat, en peut-être moins fort sur le plan du jeu contre Manchester City notamment, mais c'est être capable de pouvoir s'imposer contre des équipes qui à première vue leur étaient supérieures. City, je pense, était supérieur au Real, mais sur les deux matchs, il n'y a rien à dire.
J'insiste, vraiment, le Real, cette année, encore une fois, c'est deux défaites toutes compétitions confondues, les deux contre l'Atlético d'ailleurs, en Coupe du Roi et en championnat, mais c'est tellement au-dessus des autres, en termes de chiffres en tout cas.
Mais ce qui est intéressant, j'ai l'impression que le Real, depuis quelques années, donc depuis grosso modo le départ de Ronaldo, effectivement, on parle de quasiment à chaque fois de saison de transition, on parle de déclin pour des joueurs qui en fait ne déclinent pas. Alors, Modric ne déclinait pas la saison dernière, et puis ensuite c'est Kroos qui revient.
Et cette année, il a été moins utilisé, Modric.
Oui, en fait, même quand ils font des saisons de transition, ils gagnent la Ligue et la Ligue des Champions.
Mais s'ils ne déclinent pas,
est-ce que c'est pas aussi ça qui nous impressionne? C'est ce côté, le rythme de croisière, c'est d'être quand même meilleur que les autres.
Mais parce que ce
sont des survivants.
Oui, c'est ça, parce que ce sont des joueurs qui sont capables de chaque fois remettre le métier dans l'ouvrage, dit-on, une expression un peu comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, la difficulté pour le très haut niveau, c'est d'être capable chaque fois de se remettre en cause, se remettre en question. Et il faut quand même dire que du côté chef d'orchestre, disons Herbert van Karajan, à un moment, vous avez le chef d'orchestre ultime, celui qui est capable, en dépit des blessures, en dépit des moments un peu durs comme ils ont pu vivre contre Manchester City par moment, espèce de statue du commandeur, tranquille, serein, les joueurs le regardent, il n'y a jamais vraiment de pression au match aller contre le Bayern, ils vivent un quart d'heure sous l'eau, c'est comme si de rien n'était, alors que ça doit bouillir intérieurement, hein. Faut pas croire qu'il y a la face et puis il y a ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, tout ça fait qu'à un moment, lui, il a réussi à trouver cette espèce, je sais pas, de magie, hein,
fluide, le mojo.
Voilà, et qui fait qu'à un moment, les joueurs se sentent tout le temps en confiance. Et ça, c'est capital.
Ça fait pas mal de Liga là, sur quelques années pour le Real. Il y a eu 2017, 2020, 2022. À un moment donné, le Real, je vais pas dire abandonner la Liga aux autres, mais gagner presque plus souvent la Ligue des Champions que le championnat d'Espagne, Salim. Et je me souviens de Zidane qui avait refait de ce championnat un objectif parce que c'était il fallait de nouveau se réancrer comme ça dans ce palmarès national. Donc il faut pas négliger ça aussi.
D'ailleurs, Zidane, alors vous avez raison de dire, puisque Zinedine Zidane l'évoquait, ça, l'importance du championnat. Lui, il l'a connu comme joueur, évidemment, mais Zinedine Zidane aussi l'a connu aux côtés de Carlo Ancelotti, déjà, hein, puisqu'on le rappelle, il était à ses côtés en tant qu'adjoint, en quelque sorte. Et Ancelotti aussi, lorsqu'il a gagné la Ligue des Champions, a inculqué cette importance du championnat aussi, lorsqu'il était, lors de son premier passage à la tête de cette équipe du Real. Donc, au final, c'est pas un hasard que Ancelotti, de nouveau, veuille tout faire pour gagner ce championnat. Et maintenant, j'ai presque envie de dire, on pense à après, parce que quand on voit cet effectif désormais, alors on évoque ces joueurs qui sont peut-être en fin de passage, Modric, Kroos, mais quand on voit
ça va bouger,
ces
été, hein,
autres joueurs qui sont déjà là,
il y a plein de jeunes.
C'est ça. Quand on voit cette jeunesse et cet âge moyen, Bellingham, Vinicius, Rodrigo,
Mbappé,
Valverde, Tchouaméni, Camavinga, et on peut continuer longtemps. Pardon, mais cette équipe du Real, avec un certain Kylian qui devrait arriver aussi, enfin, ça commence à être effrayant.
Le petit Brésilien aussi.
Hendrick, absolument.
Qui est très cher, donc
mais
je ne vais peut-être pas l'appeler comme ça très longtemps.
L'arrivée de Kylian Mbappé peut être aussi le problème. Vous savez, la petite épine que vous avez dans le doigt de pied, parce qu'à un moment, il va bien falloir qu'il trouve une place devant. Si vous l'achetez cher, il
absolument
aura à sa place, c'est une certitude.
Absolument.
Mais vous savez, ils ont deux amis
qui
en face.
Qui allez-vous enlever?
Et puis surtout, ils vont discuter entre eux dans le vestiaire. Vous imaginez pas que Rodrigo et Vinicius, ils vont dire, ah bah, tiens, petit Frenchie, bon, qui va venir prendre notre place.
C'est là où on peut se dire qu'on a le talent du compositeur, Carlo Ancelotti.
Ce sera lui.
Qui va être dans un exercice assez dingue pour réussir tout.
Et le Real Madrid a déjà eu l'occasion d'accueillir des joueurs d'un certain calibre. Donc, à mon avis, on sait
surtout,
faire dans la Maison Blanche.
Il y a un autre élément qui plaide en la faveur d'une issue positive dans cette affaire, c'est le côté très malléable tactiquement de Jude Bellingham, parce que là Jude Bellingham a joué quasiment comme un 9,5 et comme le premier buteur de l'équipe, parce qu'il n'avait plus de buteur. Bon, l'attaquant espagnol José Lu, dont j'ai, José Lu, qui était vraiment un buteur pour les matchs secondaires, mais qui n'avait jamais eu l'ambition de s'imposer comme le successeur de Benzema. Bellingham a pris la place, mais si Mbappé arrive, il peut très bien reculer d'un cran au milieu et laisser la place pour les trois de devant.
Pour rappel, Bellingham en équipe d'Angleterre joue en 6.
Deuxième possibilité, il n'est pas impossible également que le Real, en cas de très bonne offre, se sépare d'un des deux Brésiliens.
Voilà, je le vois aussi comme ça, c'est une possibilité.
Les choses ne sont pas figées.
On ne va pas aller trop vite. On aura l'occasion de se projeter sur
l'équipe qu'il y a.
Sur les mercatos du Real Madrid. En attendant, ils sont champions d'Espagne. C'est une excellente manière de préparer avec José Lu, qui n'est pas un avant-centre français d'un club de village. Hein. José Lu en espagnol, c'est peut-être un peu plus joli.
Oui, parce que lui,
José Lu, ça fait un
José
peu
non,
José
Lu.
José Lu. Non composé.
Pardon, comme je ne parle pas, je le prononce en français, mais en gros.
De l'avant-centre de votre club de village.
José Lu, on dirait c'est un équivalent espagnol de Gaëtan Laborde ou d'Andy Delors. C'est à ce niveau-là. C'est un joueur à 15
mais lui,
buts par saison.
Il est champion d'Espagne avec le Real Madrid. Ça fait deux titres déjà en 2024, puisqu'il y avait eu aussi la Supercoupe d'Espagne. Et puis, bien sûr, il y a cette 15e Ligue des Champions, Coupe aux Grandes Oreilles. Que vise la Maison Blanche? De partout à l'aller à Munich en demi-finale, le retour au Santiago Bernabéu, préparé dans les meilleures conditions, de la meilleure des manières. On file maintenant dans un pays où jouer le championnat, la Ligue des Champions, mon cher Salim, ce n'est un problème pour personne en cette fin de saison.
Saka scores! Wrong foot travels and Bukayo Saka does it again! Lead 1-0! It might come to Trossard! Arsenal reprend 4 points d'avance sur Manchester City. Les Citizens devront répondre dans quelques heures.
Fight.
Old Haaland, 2-0. Ça, c'est du Haaland. And Haaland tucks it in. A hat-trick before half-time. Erling Haaland retrouve la quatrième dimension. 4 buts d'Erling Haaland. 5 buts à 1 pour Manchester City.
Ne jamais énerver Erling Haaland. Si Mbappé ferme des bouches avec des triplés, pour Haaland, c'est plutôt t'es pas content, quadruplé. Pas mal critiqué ces derniers temps, le Norvégien de Manchester City, pas suffisamment Guardiola compatible, entend-on ici et là, vient d'enchaîner 7 buts en 3 rencontres, c'est pas mal. Son quadruplé de ce week-end a permis aux Sky Blues de battre Wolverhampton 5-1. Résultat, City colle toujours au basque d'Arsenal, les Gunners vainqueurs 3-0 contre Bournemouth. Sauf qu'à 2 journées de la fin, c'est bien Manchester City le deuxième qui a son destin en main. Pourquoi ? Parce qu'il reste 2 matchs, c'est normal, à jouer pour Arsenal, mais 3 pour City, qui sera champion s'il réalise un sans faute. Ça rappelle un peu les saisons précédentes. L'antépénultième journée de Première Ligue, Salim Bongali, puisque c'est un peu votre dada, a-t-elle dévoilé quelques indices pour la suite, le dénouement de la course au titre ? Il y a tout de même un résultat que je voudrais donner pour être tout à fait complet. La 4e défaite de rang du 5e, Tottenham. Après Arsenal et Chelsea, c'est Liverpool qui s'est amusé face à des Spurs très très conciliants, 4-2. Or, ce Tottenham en roue libre, on peut le dire comme ça, est justement l'adversaire que Manchester City va affronter pour son match en retard.
Dans vos propos, vous avez évoqué comme les saisons précédentes. Sous-entendu, City, comme les saisons précédentes.
Ils ont régulièrement fait cette espèce de sans faute sur le sprint final.
Mais c'est ça. Le truc, c'est qu'on l'a tellement vu ces dernières saisons, City, bien, très bien, trop bien presque finir leur saison avec des victoires qui se dessinaient assez aisément, assez facilement. Sincèrement, quand on a vu cette victoire en plus aisé avec un Haaland qui est retrouvé comme par hasard, Pep Guardiola après le match, il le disait, oui, il y a quelques jours, il se sentait moins bien, mais j'avais pas d'inquiétude, ne vous inquiétez pas, dans les grands moments, il est là en championnat, etc. On l'a vu là encore, même s'il a marqué 2 buts sur penalty, mais il les a très bien marqués, sans problème. Sincèrement, quand on voit ce City-là, même si Arsenal est bon, est très bon, a même de la réussite, des décisions arbitrales, tout ce que vous voulez, objectivement, si Arsenal réussit à choper le titre à ce City-là, c'est l'un des exploits de ces 5, 10, 15 dernières saisons en Première Ligue, sincèrement.
Et surtout, alors je m'acharne un petit peu sur eux avec les Spurs de Tottenham en faiseur de roi, mais plutôt en,
juste les trois derniers
en
matchs
pushing
de,
ball.
Les trois derniers matchs de City, c'est trois clubs londoniens, Fulham, Tottenham et West Ham. Honnêtement, sincèrement,
plus difficile.
Je suis guère inquiet pour City, sincèrement.
Non, mais surtout que Tottenham, s'ils doivent choisir entre, vu leur rivalité locale, entre City et Arsenal pour le titre, ils préfèrent que ce soit City qui gagne.
Et petit aparté, parce qu'il y a des grands groupes de supporters qui ont leur message sur les réseaux sociaux et autres, et il y en a beaucoup qui effectivement disent cela. Est-ce que entre nous, parce que Tottenham a encore un mince espoir de 4e place, directement qualifié
très mince.
Pour la Ligue des Champions.
C'est Aston Villa, hein,
exactement. L'occupe. Mais entre ça et faire en sorte qu'Arsenal soit champion, ils préfèrent encore ne pas avoir la 4e place
et
faire en sorte
que Arsenal
City
du titre.
Et priver effectivement Arsenal
bien
le
sûr.
Titre et que ce soit City, sincèrement.
Ouais, c'est pas certain que les joueurs soient dans cet état d'esprit-là.
Absolument.
Heureusement.
Absolument.
Ouais, on parle quand même du championnat le plus compétitif du monde, logiquement.
Oui,
donc
ce
serait quand même dommage que ça joue.
Mais je suis très surpris, franchement, par l'écroulement de Tottenham. Je pensais que c'était l'équipe qui allait décider du titre. Et aujourd'hui, elle décide de rien du tout.
Même de distribuer équitablement les points.
Parce qu'elle rencontrait tout le monde, en gros.
Oui.
Elle rencontrait les trois leaders du championnat. Mais c'est un championnat qui a affiché quelques petites surprises ces derniers temps. Il y a un mois, on était ici, je pensais que Liverpool, ou un mois et demi, juste avant la défaite en Ligue Europa, où ils prennent 3-0 à la maison contre l'Atalanta
Bergame.
Et là, franchement, je me disais, on a la sensation qu'il se passe quelque chose du côté de Liverpool.
Véridique.
Il a annoncé son départ, il gagne des matchs des fois 88e, 89e, enfin les Versus.
C'était le storytelling.
C'était le storytelling. Puis d'un seul coup, pac, plus d'essence dans le moteur. Manchester City n'a pas toujours été très très bien, mais là en ce moment, il fout droit à peu près tout le monde. Tottenham, ça ne va pas. Alors je me dis finalement, si ça se trouve, vous allez peut-être voir. Alors du côté d'Arsenal, en revanche, on a une équipe qui est très sûre d'elle, quand même maître de son jeu, ce qui n'a pas été toujours le cas cette saison. Alors enfin, ils ont un très haut niveau, hein, puisque à partir du moment où vous avez trois équipes quand même qui sont battues pour le titre, avec un certain niveau de compétences et d'excellence. Mais du côté de Tottenham, je me dis, et s'ils se réveillaient, pour une fois, comme ils ont pu se réveiller sur les 20 dernières minutes contre Liverpool, c'est-à-dire parce qu'ils étaient aussi, ils sont menés 4-0, ils mettent ces deux buts, et même Liverpool peut craindre un peu pour la fin de match. Donc je me dis, on ne sait jamais, est-ce qu'ils sont capables à un moment de ressortir, vu le championnat qu'on a vécu ? Eh bien, pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas ? Donc, je ne donne pas encore le titre assuré à Manchester City, mais si j'avais à parier, je vous l'avoue, je donnerais mon argent du côté de Pep Guardiola.
Il y a eu plusieurs saisons comme ça, où justement, c'était plutôt Liverpool qui disputait le titre à City et ne pouvait que constater que City ne perdait pas de points. Depuis l'année dernière, c'est plutôt Arsenal. Il y a une différence entre ce Arsenal romantique, comme toujours, et le Liverpool de Jürgen Klopp qui s'en va à la fin de la saison.
Mais là, on parle plutôt de City, en l'occurrence, pour le titre.
Oui,
mais le concurrent, c'est Arsenal. Est-ce que vous voyez Arsenal ?
La différence, si vous voulez, c'est qu'à mon avis, Arsenal et Arteta tirent le maximum du maximum qu'il peut tirer de ce groupe-là. C'est quand même, sur le papier et en termes de profondeur de banc, comme on dit, un groupe plus limité que Manchester City, voire que Liverpool. Il en tire le maximum. Et la chance de City sur la fin de saison, c'est que je pense qu'ils ont un peu de marge. Ils en ont encore un peu sous la pédale. Arsenal, pour moi, est à fond sur l'accélérateur. Ils ne peuvent pas aller plus vite.
Ah oui, oui.
C'est
si,
pas possible.
S'ils gagnent leurs deux derniers matchs, ça suffira pour
ça
eux.
Ça suffira, mais après, attention quand même à la sortie de route quand on va trop vite. Je pense que City, ils sont un peu plus en contrôle. Après, en revanche, il y a un élément qui plaide pour Arsenal, mais alors ça vaut ce que ça vaut. Sur les stades, c'est la meilleure défense et la meilleure attaque. Donc ça, en général, on n'est pas loin du titre quand on a ces deux stats-là.
Mais le problème qu'on a avec Haaland, c'est que s'il se met à se réveiller, parce que c'est vrai qu'il a vécu une saison très particulière, Haaland, en dehors des blessures.
Ouais, en nombre de buts, il n'est pas au top. Il a fait largement mieux déjà.
Oui, mais enfin, il est quand même déjà à 25 buts.
25 buts en PL.
C'est pas rien avec sa blessure, donc c'est pas rien. Je veux dire, il peut finir, ça se trouve, pas loin de 30 buts.
Absolument.
Encore. Donc c'est quand même, il aura été là à des moments particuliers. Mais en revanche, il n'a pas été là tout le temps.
Absolument.
Et la blessure de De Bruyne a été importante aussi, parce qu'il y avait quand même cette relation qui s'était nouée entre les deux joueurs, et la blessure de De Bruyne a fait beaucoup de mal à ce Manchester City. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont tous revenus à un bon niveau. Ouais. Et c'est ça qui interpelle, interroge. Mais j'essaye quand même dans cette émission, de laisser un peu de suspense.
Oui, vous
donc croyez en Tottenham.
Vous quand même donnez envie de
suivre la fin.
On va même avoir envie de suivre un West Ham Manchester City, ce qui était quand même improbable.
C'est évident.
En début de saison, c'est
une évidence.
Mais
c'est
évident. Avec un Paqueta qui à un moment était visé par.
C'est le cas. Il l'est toujours.
Salim, je faisais un peu la comparaison au Liverpool de club comme ça qui se battait avec Manchester City pour Arsenal. On a parfois un peu cette impression. Alors peut-être que c'est une version un peu romantique de l'histoire ou française, parce que ce sont des équipes peut-être plus populaires en France que Manchester City. Mais cette impression qu'on avait avec Liverpool il y a quelques années, comme avec Arsenal cette saison, que City, ok, ils vont gagner, ils sont trop forts, Guardiola, l'effectif illimité, mais comme si c'était pas la meilleure équipe, quoi. Comme si c'était en tout cas pas celle qu'on avait envie de voir gagner, quoi. Et quand même, il y a la fatalité.
Comme vous le dites, il y a cette version un peu romancée. Et Arsenal, il y a un regard français aussi qui a été connu dans les années 90,
2000. Avec Wenger, bien
évidemment,
sûr.
Liverpool, parce que Klopp a surtout permis à Liverpool de redevenir ce grand Liverpool-là, ne serait-ce que le titre de champion. Je rappelle que Liverpool ne l'avait plus gagné depuis une trentaine d'années.
Et une Ligue des Champions.
Donc,
aussi.
Évidemment, qu'il y a ce regard romantique et à juste titre. Après, pardon, mais ce City-là est peut-être froid pour certains. Moi, je n'ai pas forcément cette impression-là. Quand il y a une telle maîtrise, quand il y a une telle qualité de jeu...
J'ai pas dit que c'était une équipe
et
à
je
la Mourinho.
Et je l'entends. Mais à un moment donné, cette équipe de City, sur ces dernières années, c'est l'une des meilleures de l'histoire du championnat d'Angleterre.
C'est l'aspect inéluctable. Quoi.
Non, mais ce qui m'intéresse aussi dans ce City-là depuis l'arrivée d'Haaland, c'est que Pep Guardiola, qui rechignait parfois à jouer avec un numéro 9, vraiment de métier,
absolument,
qui faisait des expérimentations, qui mettait des faux neufs ou des joueurs qui n'étaient pas des joueurs de pointe à ce poste-là. Là, il s'est frotté à ça, il a réussi à l'intégrer, à en faire quelque chose d'intéressant.
C'est encore discuté. En Ligue des Champions, récemment,
Ligue des
on a encore
Champions,
un peu discuté ça.
Ça a un peu renaclé cette saison, mais globalement, oui, c'est quand même pas un ratage, Haaland.
Vous me dites en Ligue des Champions,
ça m'intéresse.
Non,
vous me dites
c'est pas moi, je dis que
certaines personnes
continuent de discuter sur le fait est-ce que Guardiola peut jouer avec un neuf.
Elles peuvent dire ce qu'elles veulent, ces personnes-là. L'année dernière, Manchester City a remporté la Ligue des Champions pour la première fois grâce à Haaland aussi. Alors même si en finale, demi-finale, il n'a peut-être pas été exceptionnel, jusqu'à la demi, il était énorme, et c'est en mettant un 9. Et donc c'est drôle, parce qu'à un moment, on nous expliquait, vous savez, le football, il ne faut pas de 9, il faut des gens qui jouent au foot, qui sortent des espaces, etc. Puis d'un seul coup, Guardiola, il a mis un 9, puis tout le monde dit, il faut des 9, parce que les 9...
Voyez, donc c'est vrai que vous disiez un petit peu la suite de l'émission, puisque César Luis Menotti, il n'y a pas si longtemps, dans une interview accordée à nos confrères de SoFoot, il revendiquait la paternité du faux neuf. Donc, voyons, on va pouvoir en discuter. Le mot de la fin sur la première ligne pour vous, Salim Bangali, qui portait le numéro 10, après tout.
Pour donner un espoir peut-être aux fans d'Arsenal, je l'ai dit, il y a Fulham Manchester City, donc ce week-end. Fulham avec le gardien Bert Leno, ancien d'Arsenal. Et sur les réseaux sociaux, il a été sollicité par des fans d'Arsenal en lui disant « Vas-y, essaye de faire quelque chose face à City. » Et il a dit « Vous inquiétez pas, il y aura un clean sheet ce week-end. » Donc voilà, il le dit, il y aura un clean sheet face à City.
Voilà, avec deux vice-champions d'Afrique,
Fulham.
Bassey et Iwobi qui finissent bien la saison.
Et avec cette équipe de Fulham, donc c'est passionnant en tout cas à suivre. Est-ce que Fulham va donner le titre à Arsenal?
On n'a jamais aussi bien vendu un Fulham.
Surtout les 5 premières minutes. Parce que la 6e, quand il va avoir le premier but d'Haaland.
Et ça s'enregistre, si ça arrive, ça s'enregistre.
Je pensais que vous nous vendriez le match entre West Ham et City.
Ça c'est la J38.
On en a parlé une journée après l'autre. Voilà, match par match. Patrick Juillard, Salim Bangali, Hervé Penaud dans Radio Foot sur RFI. Et nos auditeurs, que pensent-ils du sprint final en Angleterre, du titre du Real en Espagne aussi, ou encore de notre prochain sujet de discussion, la disparition de César Luis Menotti, le légendaire entraîneur argentin.
Radio Foot International, bonjour, je suis Nouditibaï Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad. Je suis un Catalan, mais j'avoue le mérite du Real de Madrid qui durant toute une saison était une équipe merveilleuse et le Real mérite bien le titre de champion d'Espagne.
Bonjour à tous, je suis Honoré Dem, Togolais vivant en Italie. Manchester City et Arsenal nous font vibrer. Ce serait vraiment dommage si Arsenal ne devient pas champion, parce que pour moi, il le mérite plus que City.
Bonsoir Radio Foot International. Moi, c'est Marcel. Je vous suis depuis la République démocratique du Congo. Mon message de félicitations est adressé à la Maison Blanche. Saison incroyable faite par les hommes de Carlo Ancelotti qui, pour le moment,
on subit qu'une seule défaite en championnat. Bravo, bravo à eux.
Bon après-midi à toute l'équipe de Radio Foot International. Je suis Odon Mouindo depuis la RDC en ville de Goma. Premier League Arsenal et Manchester City. C'est difficile de déterminer qui va terminer champion car Arsenal montre également de belles intentions. Ils auront un peu de regret si Manchester City peut parvenir à remporter son match en retard. Manchester City doit aussi tout gagner pour donc finir champion. Tout est possible. Les titres se discuter à la dernière journée.
Et oui, nous aussi à Radio Foot, hein, quand on revient au bureau le lundi, on a plein de messages à consulter. Continuez à nous parler sur WhatsApp pour nous raconter vos week-ends ballon rond. Et vendredi, il faudra évidemment vous faire beau et vous filmer pour le Café des Sports de Radio Foot.
Con la soledad, el éxito conseguido de cualquier manera. Entonces, si un equipo es una idea, un entrenador es la idea.
Triste, lamentable que murió César Luis Menotti, el flaco Menotti, primer campeón del mundo con la selección argentina.
Todo bleu, ciel et blanc, vêtu.
Y acaba de fallecer el técnico conductor de la selección argentina, campeona 1978, César Luis Menotti.
Le 25 juin 1978, le stade Monumental de Buenos Aires, de Buenos Aires en bon français, porte parfaitement son nom. Des centaines, peut-être des milliers de petits papiers blancs, des papelitos, il me semble que c'est le terme, jaillissent, volent, s'écrasent sur le terrain, du suspense sur le prêt et au bout des prolongations, la joie, le bonheur des Argentins. Ils battent les Pays-Bas 3-1 et ils soulèvent leur première Coupe du Monde à la maison. 1978, une délivrance footballistique signée en partie Menotti, César Luis de son prénom, sélectionneur de l'Albicéleste à cette époque. Une époque très noire pour le pays, une fois franchies les limites du terrain. César Luis Menotti, de beaux cheveux longs, façon Hervé Penaud, de belles pattes ou flaquettes, un peu à la Patrick Juillard, une fine silhouette, on ne le surnommait pas El Flaco pour rien. Un dandy comme Salim Bangali, avec le sens du beau jeu, un entraîneur qui faisait partie des références de Pep Guardiola, excusez du peu, qui lui a d'ailleurs rendu hommage. César Luis Menotti, décédé à l'âge de 85 ans, il paraît qu'en Argentine, on choisit son camp. Soit on est menotiste, donc un adepte de Menotti, on veut gagner avec style, on peut se passer de Maradona, comme en 78, pour gagner la Coupe du Monde. Soit on est billardiste, adepte de Carlos Bilardo, on veut gagner, et la manière, on s'en fout du moment qu'on a Maradona, comme en 86-1900, bien sûr. Le camp de Radio Foot, c'est celui de notre invité surprise, le camp du Refé, Alejandro Valente.
Oh là 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 là.
Bonjour Alejandro.
Bonjour.
Bienvenue à la maison, j'ai envie de dire, dans ce studio qui a longtemps et qui sera toujours votre maison. On est ravis de vous retrouver, l'ancien chef des sports de RFI, l'ancien Refé, évidemment, de Radio Foot. Je ne sais pas si vous étiez un ménotiste, mais je suis certain qu'en tant qu'Argentin, le décès de César Luis Menotti vous a forcément beaucoup touché.
Bah, disons que oui, parce que vous l'avez dit, ça a été dit dans les petits sujets d'introduction, il a été le premier, à jamais le premier sélectionneur à remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine, mais il a été beaucoup plus que ça. C'est difficile à imaginer quand on n'est pas argentin, mais avant cette Coupe du Monde de 78, l'équipe nationale d'Argentine, aujourd'hui si fêtée en Argentine, n'intéressait personne. Les joueurs y allaient entraîner les pieds, les sélectionneurs se faisaient prier pour rester quelques mois et dégager dès qu'ils trouvaient un meilleur poste. Ça n'intéressait personne et l'équipe d'Argentine traversait les compétitions, les Coupes du Monde, quand elle les jouait de manière fantomatique et souvent improvisée. Et Menotti a eu le mérite, en arrivant après une Coupe du Monde de 1974, où l'Argentine avait encore une fois été lamentable, il avait exigé que l'équipe nationale devienne la priorité. L'Argentine devait organiser la Coupe du Monde suivante en 1978. Il a obligé les présidents des clubs à signer des documents s'engageant à libérer les joueurs dès qu'il allait les solliciter. Il a construit tout un staff et bâti des équipes de jeunes qui n'existaient pas à l'époque. Bref, il a organisé les choses pour que l'Argentine devienne une vraie puissance de premier plan en matière de football. Et tout ça avec une idée simple, qu'il fallait jouer comme les Argentins aiment, c'est-à-dire en caressant la balle, en cherchant le jeu offensif, en jouant avec la tête, avec le cerveau, avec intelligence. Et voilà, le ménotisme, c'est un peu ça. Lui, il ne revendiquait pas le ménotisme, il disait que c'était une bêtise de parler de ménotisme. Mais en tout cas, les Argentins se sont fortement identifiés avec son idée, avec son équipe. Et l'Argentine a finalement décroché ce titre à la maison et voilà, et a commencé une histoire beaucoup plus belle au cours des 50 dernières années, puisqu'elle est l'année à 3 Coupes du Monde remportées depuis.
Ah bon, il y en a une troisième. Je ne me souviens pas. Allez, rentre-toi. Retour sur le contexte quand même très particulier de cette Coupe du Monde 78 en Argentine, la dictature militaire. Le Mondial 78, c'est peut-être le mondial le plus discuté, polémique de l'histoire moderne, en tout cas avant peut-être le Qatar 2022, mais est-ce que vous pouvez un peu nous rappeler
oui,
ça
bah,
c'est une histoire extrêmement douloureuse.
Voilà, Menotti est désigné en 74, c'est-à-dire à l'époque, l'Argentine n'était pas en dictature. Le coup d'État a lieu en 76. Donc, quand le coup d'État arrive, Menotti qui est membre du Parti communiste, qui a des idées de gauche, qui a les cheveux longs, qui a des goûts culturels et autres qui sont aux antipodes de ceux prônés par la junte militaire, pense qu'il va être viré. Et pourtant, il n'est pas viré. Et il est plutôt confirmé dans son poste et même obtient le soutien actif de la junte militaire, par exemple, qui interdit tout transfert des joueurs en dehors de l'Argentine jusqu'à la Coupe du Monde. Aucun joueur ne peut être transféré à l'étranger afin que Menotti ait tous les joueurs sous la main et puissent préparer au mieux cette Coupe du Monde. Donc, Menotti, malgré cette situation qui est compliqué pour lui. Il a avoué plusieurs fois que ça a été difficile. Il s'est mis à fumer comme une cheminée. Il fumait 4-5 paquets par jour.
C'est difficile de trouver une photo où il n'a pas une clope au bec. Hein.
Oui. Et il a même signé, ce qui était très courageux, des nombreux communiqués pour demander des informations sur les disparus, etc. Donc, et il a fait ce qu'il a pu dans un contexte qui était quand même très délicat. On peut toujours penser qu'il aurait pu faire davantage, mais en tout cas, il a donné aux Argentins cette joie et ces moments de bonheur qui étaient devenus très rares à cette époque, car la dictature a été terrible. Il y a eu 30 000 disparus. Enfin, bon. On connaît l'histoire, c'était une époque dramatique.
Justement, aller rendre une déclaration, je parlais de nos confrères de SoFoot, voilà ce qu'il leur a déclaré. L'Argentine était dans une spirale criminelle, donc à l'époque. Le plus grave, c'était d'intégrer le football là-dedans. D'une certaine manière, nous avons été les seuls capables de briser le couvre-feu en mettant 25 millions de personnes dans la rue. À l'époque, le football a été utilisé, mais comme il l'a toujours été, je dis toujours la même chose, aurions-nous précipité la fin de la dictature en perdant si Kempes n'avait pas marqué en finale? Prenait-elle fin? Non. Je peux vous garantir que ni les joueurs ni l'entraîneur n'avaient rien à voir avec le coup d'État. Alejandro, évidemment, vous restez avec nous. Je voudrais faire un petit tour de table. Hervé Penaud, oui. Salim Bongali et Patrick Juillard sont à mes côtés. Est-ce que l'un d'entre vous, sans dévoiler son âge, a des souvenirs du Mondial 1978? On élimine Salim Bongali, qui, pour des raisons biologiques, ne peut pas en avoir.
Malheureusement, j'ai des souvenirs du Mondial.
Vous écoutiez Springsteen et puis vous regardiez
le
Mondial 78.
Parce que c'est quand même une époque, il faut bien se rendre compte, se remettre dans le contexte. Et c'est vrai que de Menotti, pour nous, on voyait ça de l'extérieur et puis il n'y avait pas autant d'images qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de réseaux sociaux. On a l'impression qu'on vivait à une autre époque, pour tout vous dire. Et c'est vrai que l'image qu'on avait, c'est ce côté un peu romantique, déjà par le style et qu'il avait. Et puis il y a cette Coupe du Monde. Mais la Coupe du Monde, c'est Menotti, c'est Kempes. Parce que l'image quand même de la Coupe du Monde, c'est Mario Kempes. Hein.
Alors, numéro 10, numéro parce qu'il faut toujours un bon numéro 10.
Mais numéro 9.
Mais attaquant, pas vraiment numéro 9. De jeu. 6 buts, meilleur
buteur. Et on ne peut pas dire. Et Alejandro, je pense que tu seras de mon avis. Ce n'était pas non plus une équipe ultra brillante, cette Argentine-là. C'était une équipe qui travaillait pour Kempes, qui avait été incroyable durant cette compétition et qu'il y avait quand même des joueurs de très très bon niveau, les Passarella, les Brochaga, etc. Donc il y avait des très bons joueurs, mais ça n'a pas été, si vous voulez, aussi flamboyant qu'on veut bien le dire aujourd'hui, parce qu'on revoit ça maintenant avec l'œil de l'amour, en se disant oh, ça devait être un jeu qui partait dans tous les sens. C'est pas le Brésil de Télé Santana, voilà. Hein, je ne sais pas ce que tu en penses, Alejandro.
Oui, non, il a raison, Hervé. Et Menotti, ça en est expliqué à plusieurs reprises. Il a dit que la pression était trop forte.
Bien sûr.
On jouait quand même avec le couteau sur la gorge.
Et ça démarre mal, d'ailleurs.
Et c'était difficile. En plus, il faut penser qu'à l'époque, la Coupe du Monde, il n'y avait que 16 équipes. Donc déjà, dès le premier tour, l'Argentine avait affaire à la France, à l'Italie, à la Hongrie. Enfin, c'était dès le début, c'était très compliqué. Et tout le monde se souvient, ou enfin, beaucoup se souviennent de cette victoire 6-0 face au Pérou qui a permis à l'Argentine d'accéder en finale, ce qui n'était pas évident.
Ah, et qui est vu comme une performance assez discutée aussi.
Voilà, ouais.
Avec un gardien d'origine. Argentine, Ramon Quiroga dans les buts du Pérou.
Oui, parce que l'Argentine à ce moment-là joue en sachant ce qu'il faut qu'elle fasse pour qualifier. Déjà, c'est un petit peu étrange. Et en tout cas, maintenant, c'est une autre époque.
Il n'y a pas encore la simultanéité des matchs.
Il faut soigner la différence de but par rapport au Brésil. Je crois que la concurrence avec le Brésil.
Absolument, oui.
Et il y a donc cette victoire 6-0 à la maison.
Il a fallu attendre l'Allemagne-Autriche pour qu'on ait les derniers matchs à disputer au même moment.
C'est encore un peu après. Mais c'est vrai que Menotti, on a l'impression qu'on peut l'insérer. On peut l'insérer dans une espèce de lignée à laquelle finalement on peut encore faire allusion et à laquelle on a fait allusion il n'y a pas si longtemps dans cette émission, il y a quelques minutes à peine. Guardiola revendique un petit peu la paternité aussi de
Bielsa aussi.
Ou plutôt Menotti revendique la paternité de ce que Guardiola a mis en place en tant qu'entraîneur. Menotti qui aime beaucoup hein, d'ailleurs, qui aimait beaucoup Guardiola. Il se place un peu dans la lignée Michels,
oui.
Donc Cruyff, Guardiola et Menotti lui-même revendique une place dans cette lignée des entraîneurs penseurs du beau jeu.
Oui, certainement. Lui, il venait de Rosario, qui est une ville qui a apporté
la ville de Bielsa dont parlait Patrick
Vieira. Des grands joueurs à l'Argentine, mais il habitait dans un appartement au centre de Buenos Aires où défilaient souvent des personnages comme ceux que vous avez décrits. Guardiola est venu le voir plusieurs fois, Sacchi, Klinsmann, qu'il admirait beaucoup également. Il avait des relations très particulières aussi avec Bielsa. Il avait une relation aussi très fluide avec Cruyff. Il y avait comme une sorte de communion effectivement entre tous ces joueurs qui se voulaient révolutionnaires. D'ailleurs, dans son salon, il y avait une énorme affiche de Che Guevara et Menotti disait que Guardiola était le Che Guevara du football moderne. Bon,
il a tout emporté sur son passage, même le Catenaccio des Italiens, il les a tous massacrés. Voilà ce qu'il disait de Guardiola, oui, César Luis Menotti.
Après, il y en a qui critiquaient souvent Menotti et notamment les partisans de Bilardo qui estimaient qu'avec Menotti l'Argentine avait certes gagné une Coupe du Monde mais à la maison et dans des circonstances un peu discutables, tandis que lui il avait porté l'Argentine à gagner une Coupe du Monde en 86 au Mexique puis à jouer une finale en Italie. Donc il estimait que ses performances étaient bien meilleures et ses idées étaient opposées à celles de Menotti.
Alejandro,
oui.
Excusez-moi, Salim Bongali veut vous poser une question depuis tout à l'heure ou faire une remarque.
Ou compléter les propos d'Alejandro qui le disait tout à l'heure. C'est vrai qu'avec Menotti, l'Argentine a de nouveau découvert, je vais vous dire, un sentiment foot au final qu'il n'avait pas découvert depuis 19 ans puisque le dernier trophée de l'Argentine, c'était 1959. Avant, c'est une Copa América à remporter. Et avec Menotti, lorsque vous voyez par la suite d'ailleurs des reportages ou des documentaires autour de l'Argentine, il y a 78 et puis il y a 79 aussi, la Coupe du Monde Junior avec Maradona, remportée avec Maradona.
Parce qu'il ne prend pas Maradona en 78 et ça fait déjà polémique, mais Maradona est très jeune et il va gagner la Coupe du Monde des moins de 20 ans.
Maradona, alors je sais qu'après on lit aujourd'hui effectivement qu'ils sont rabibochés,
c'est ça.
Mais rappelons-nous quand même qu'à l'époque, Maradona lui en avait voulu. parce qu'il est en plus
à domicile.
C'est à domicile, c'était un jeune de 17 ans, mais Pelé, hein, rappelez-vous, avait été en Coupe du Monde, c'était la star.
Et puis, on parlait donc Cruyff, Guardiola, donc l'école du jeu du Barça, dont Menotti aurait été aussi l'un des inspirateurs, parce qu'il a entraîné le Barça avec Maradona dans les années 80. À l'époque, le Barça gagnait pas beaucoup. Et il n'a pas beaucoup gagné, mais il a quand même gagné des coupes avec le Barça. Mais voilà, pour le Barça, aussi raconter le parcours en club de Menotti. Ouais, qui n'est pas un très, très gros palmarès, finalement, après cette partie-là de sa
aussi,
carrière.
C'est aussi, je trouve, moi, dans tout ce qui ressort de lui et les photos qui ressurgissent aujourd'hui à l'occasion de son décès, c'est aussi une manière de vivre le football particulière et une dégaine, on pourrait dire, particulière. On voit souvent des photos de Menotti assis sur un ballon. Et c'est un point commun qu'il a avec aussi Carlos Bianchi. Quand on voit Carlos Bianchi entraîneur, il est souvent assis sur un ballon. Donc il y a un côté où, alors ça a l'air de rien, ça a l'air anodin, mais une manière de faire corps avec son sport comme ça et de le vivre au quotidien H24. Et puis, je trouve que j'ai relu l'interview qu'il avait accordée à SoFoot en 2018 dont vous parliez. Il y a deux écueils qu'il essaye d'éviter. C'est d'abord le côté beau jeu pour le beau jeu, l'esthétisme pur. Il dit toujours qu'il faut que ça soit au service d'autre chose. Et puis, d'un autre côté, le refus de la gagne pour la gagne, c'est-à-dire juste gagner, juste le résultat. Ça il a ça en horreur. Il veut qu'il y ait autre chose derrière.
Oui, alors en gros,
et donc,
c'est
il est un peu entre ces deux côtés-là.
On a un peu l'impression même que le succès à tout prix, c'est presque... le combat, c'est contre cette doctrine-là qu'il a mené son plus grand combat. Certains ne peuvent vivre qu'en copiant le succès. Supposons que tu aimes chanter. Si ton but, c'est de chanter comme Julio Iglesias, ça signifie que tu aimes surtout gagner de l'argent. Le succès emporte les gens. La première chose que fait le succès, c'est donner une conquête à la médiocrité. Il les absorbe en une minute. Donc, il y a quand même ce refus. Ouais. Et d'ailleurs, il le cite dans cette interview de,
non, mais une mais
de l'entraînement façon Mourinho, on va dire.
Parce qu'il y a du football façon Mourinho. Il faut pas oublier son côté politique aussi. Hein. Parce que là, on parle, c'est pour ça que c'est une époque, et ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. Mais là, il est quand même dans une ère compliquée au pays. Et lui, c'est un communiste. C'est-à-dire qu'on peut vouloir le dégager assez facilement. Et il est quand même resté fidèle à ses idéaux. Hein.
Absolument, il est resté fidèle à ses idéaux et c'est quelqu'un qui, en fait, contestait beaucoup des aspects modernes du football, par exemple la polyvalence des joueurs. Il disait dans une maison, les WC sont dans les toilettes et le lit est dans la chambre. Et il ne faut pas changer ça. Donc, il faut que chaque joueur soit à son poste. Alors que quelqu'un comme Bilardo disait, pour moi, le football, c'est pour gagner. Les spectacles, je les laisse au cinéma ou au théâtre. Enfin, ils étaient quand même il défend des deux idées qui étaient peut-être aujourd'hui complémentaires, mais qui à l'époque avaient créé deux véritables camps très opposés.
Vous l'avez rencontré, Alejandro ?
Oui, bien sûr.
Vous avez bu du vin comme Guardiola avec lui ? Vous avez dîné avec lui ?
Pas dîner, mais j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui et le rencontrer à plusieurs reprises. Donc c'était quelqu'un de passionnant pour parler, hein, et on pouvait rester des heures. Et souvent, il y avait des tablés dans des cafés de Buenos Aires où on pouvait passer 6-7 heures à discuter.
Incroyable.
Donc, c'était quelqu'un d'absolument fascinant à ce niveau-là, oui.
Bon, allez, une dernière citation, et puis après, on va entendre Menotti par Menotti dans sa propre voix. Donc, à la question, peut-on dire que vous avez entamé au Barça ce que Guardiola a développé plus tard, que ce que Cruyff, pardon, a développé plus tard et ce que Pep Guardiola a fini par porter au sommet, Menotti répond en toute modestie, oui, et ce n'est pas moi qui le dis, mais tous les joueurs. Voilà, ça pose aussi le personnage. Allez, Menotti dans sa propre voix pour finir ce sujet hommage de Radio Foot.
J'essaye de faire en sorte que l'entraîneur ne se serve pas du spectacle qui est généré par le jeu. Le spectacle en tant que prétexte de raisonnement philosophique sans fondement qui permet d'éviter de prendre des risques. Je ne connais pas de système où le risque n'existe pas. Il fait partie de la vie. Si vous voulez éviter de prendre des risques dans le football, alors ne jouez pas de match. Si j'affirme qu'une équipe est une idée, qu'est-ce qu'un entraîneur ? Le monde médiatique ne retient que les entraîneurs qui gagnent, et s'ils arrivent à gagner, tous les autres veulent l'imiter. Mais lorsque certains disent être obsédés par la victoire, je trouve cela absurde. Évidemment, personne ne dispute de compétition sans avoir l'idée d'aller jusqu'au bout. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas gagner de n'importe quelle façon, parce que cela peut vous isoler. Ainsi, si l'équipe est un concept, l'entraîneur est au centre du concept.
Et voilà, on se referme sur ces bonnes paroles. Merci à tous, merci à Alejandro Valente.
Merci à vous.
Alejandro qui était au centre du projet, lui aussi.